Un jour, j'ai lu une histoire dernièrement où est-ce qu'un jeune prédicateur, c'est pas moi là, a repris une église et il avait envie de commencer une série sur l'Apocalypse, sur la fin des temps. Et un ancien de l'église est venu le voir et lui a dit « Jeune homme, éloignez-vous du sujet des prophéties et des derniers temps. Laissez les prédicateurs âgés faire cela, car ils ne seront pas là pour voir leurs erreurs. » Ça veut dire beaucoup. L'Apocalypse est difficile à interpréter. Les fins des temps, c'est difficile à comprendre. Tout ce qui est prophétie, on se trompe. Il y a eu des erreurs qui ont été faites. Mais pourtant, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de le prêcher. Premièrement, parce que c'est dans la Bible. Deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, on voit des choses, on entend des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas correctes théologiquement. Donc, il faut en parler. Et ce matin, j'ai décidé de taper fort. Ce matin, j'ai décidé de mettre des gants de boxe. Est-ce que vous m'autorisez à mettre des gants de boxe ce matin ? Oui, poids lourd un petit peu. Est-ce que vous m'autorisez ou pas à mettre des gants de boxe ce matin ? Oui ? Alors souvenez-vous que vous m'avez donné l'accord de les mettre. Si vous êtes un peu choqué, un peu, c'est à cause de vous. Non, je plaisante. Aujourd'hui, le titre de mon message, « Pourquoi la fin des temps sera difficile ?» Et je vois déjà des gens sortir leur stylo prêts à prendre des notes. « Pourquoi la fin des temps sera difficile ?» Et c'est l'apôtre Paul qui va nous donner cette réponse. L'apôtre Paul en parle en 2 Timothée et au chapitre 3. Et c'est le texte de base pour notre série. Ce texte-là, c'est notre texte fondateur durant toute la série qui va nous accompagner pendant toute la série. Et le contexte est simple. Paul arrive à la fin de sa vie. Et plus qu'à la fin de sa vie, en fait, il sait qu'il va bientôt se faire exécuter. Et il envoie une dernière lettre à son fils spirituel, Timothée, pour lui donner des derniers enseignements, des dernières informations, des derniers encouragements. Et on sait tous que les dernières paroles d'un homme sont précieuses. Parce que c'est le dernier moment où est-ce que je dois dire ça encore. Et on voit que l'apôtre Paul nous dit en 2 Timothée, au chapitre 3 et au verset 1, « Rappelle-toi bien ceci, Timothée, il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Pourquoi ? À cause de quoi ? À cause de qui ? À cause de la bête ? À cause de l'Antichrist ? À cause de la Covid ? À cause du vaccin ? À cause de la marque de la bête ? Pourquoi, Paul ? » Et il continue, verset 2. « Car les hommes seront égoïstes. » Une autre version que j'aime beaucoup en anglais, et je l'ai traduit, dit que « les hommes seront amoureux d'eux-mêmes ». C'est beaucoup plus proche du mot grec ici. Selon Paul, la raison pour laquelle les temps de la fin seront difficiles, c'est parce que les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Et par la suite, il donne une longue liste de caractéristiques. Ils seront violents, cruels, ennemis du bien, etc. Mais toute cette caractéristique de ces mots-là, tout ça vient du premier mot, amoureux d'eux-mêmes. Le grec, c'est le mot grec philautos, amoureux de soi-même. L'orgueil, la fierté, l'arrogance, des hommes vont faire qu'à la fin, les temps seront difficiles. Et je suis sûr que vous n'attendiez pas cette réponse-là. Ce matin, on va parler d'orgueil et de fin des temps. C'est pour ça que j'ai pris les gants de boxe. C'est parce que quand on doit parler d'orgueil, on ne peut pas prendre des gants de velours et puis aller tout en douceur. Non, non, il faut taper fort. Et ce message va concerner tout le monde parce que nous sommes tous orgueilleux. Moi le premier. Et je suis tellement orgueilleux que je refuse que quelqu'un soit plus orgueilleux que moi ce matin. La dernière fois, on est allé à Rona avec Julie, et puis on devait chercher une pièce pour la maison. Et moi, je suis du genre à ne jamais demander un conseil ou de l'aide à un vendeur. Je préfère faire 15 fois les rayons, mais je ne veux pas demander de l'aide. Je suis trop orgueilleux pour ça. Sauf que Julie, elle ne supporte pas ça. Elle me voit faire, elle me voit courir partout, là. Et à un moment, elle en a marre. Donc, elle va demander au vendeur. Et moi, je la vois du coin de l'œil. Où est-ce qu'elle va ? Donc, je fais semblant de chercher. Je les suis discrètement parce que je refuse que le vendeur me voie, moi aussi, avoir besoin d'aide. Je suis tellement orgueilleux que je refuse qu'il voie que j'ai besoin d'aide, moi aussi. Elle ne me juge, elle n'est pas là. Il y a la moitié des gens qui me jugent. Et l'autre moitié, où est-ce que je vois la femme faire « Hey, il est comme toi, le pasteur. » Lui aussi, il n'aime pas demander l'aide. C'est ma nature, c'est ce que je suis. Et on rigole comme ça, mais honnêtement, mon orgueil L'amour que j'ai pour moi-même, c'est l'un des sujets pour lesquels je pleure le plus devant Dieu. Parce que je m'aime trop. Et le danger de s'aimer, de trop s'aimer, c'est qu'on en vient à moins aimer Dieu et moins aimer les autres. Et aujourd'hui, dans notre société, on voit une chose, c'est que les gens sont de plus en plus amoureux d'eux-mêmes. Je crois que les gens ont toujours été amoureux d'eux-mêmes, d'une façon générale, mais aujourd'hui, de plus en plus, dans la culture, il y a quelque chose qui est en train de se développer, où on est en train de cultiver l'amour de soi. Sois ton propre héros. Fais ce que tu veux. Personne n'a le droit de te dire que tu as tort. Écoute ton cœur. Soit dit en passant, c'est le pire conseil à donner à quelqu'un. Des milliers de personnes sont en prison parce qu'ils ont écouté leur cœur. Des milliers de mariages ont été brisés parce que l'un des deux dans le couple a écouté son cœur et a vécu une liaison. Même Jésus nous dit en Matthieu 15 et au verset 19, « En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Écoute ton cœur !» Dernièrement, je suis allé aussi chez un de mes amis et je ne me souvenais plus trop de la route. Donc, pour être sûr, j'ai mis mon GPS. Sauf que, allez savoir pourquoi, mon GPS, il n'arrivait pas à me retrouver. Mon GPS me disait « Tu es ici ?» alors que j'étais là. Et il me donnait des informations qui étaient totalement fausses et erronées. Et je me suis dit, je n'ai pas l'écouté. Je sais où je me rends là et il a tort là, le GPS. Et heureusement que je ne l'ai pas écouté parce qu'une fois que je suis arrivé à destination, le GPS me dit, il vous reste 1h15 de route. Écouter son cœur reviendrait à dire, hey, écoute ton GPS, pasteur Florian. Ça va t'amener partout, sauf à la bonne destination. Si j'écoutais mon cœur, je passerais des heures sur Netflix. Si j'écoutais mon cœur, je ne me lèverais pas plus tôt le matin pour prier ou pour lire la Bible. Si j'écoutais mon cœur, je dépenserais toutes mes économies pour acheter des commentaires et des livres. Hein, pasteur Jérôme? On partage le même défi. Écouter son cœur, c'est d'aller dans toutes les directions, sauf vers Dieu. Et en nous disant « écoute ton cœur », la société nous appelle à être notre propre Dieu. Et Paul, il y a plus de 2000 ans, nous prévenait de ça. Les temps de la fin seront durs car les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais Paul ici utilise un terme particulier que je vous ai cité tout à l'heure, « philotos ». Ce mot est unique. C'est la première fois qu'on le voit dans la Bible. Et c'est la seule fois. C'est la seule fois que Paul l'utilise. Pourquoi l'utiliser? Pourquoi utiliser un mot si unique pour décrire une situation qui existait déjà auparavant? La société était déjà amoureuse d'elle-même avant. Alors pourquoi Paul utilise un mot unique? Et la façon dont je l'ai compris, Paul nous mettait en garde d'un amour qui n'existait pas auparavant. C'est que l'amour de soi arrive dans l'Église. Paul nous dit attention, faites attention à l'Église, parce qu'un jour, l'Église sera amoureuse d'elle-même. Voilà pourquoi Paul nous met en garde. Voilà pourquoi les temps seront difficiles, c'est parce que les gens de l'Église seront amoureux d'eux-mêmes. Le plus grand danger de la fin des temps, ce n'est pas l'orgueil de ton voisin, ce n'est pas l'orgueil de ton collègue, c'est ton orgueil, c'est mon orgueil. Et la crise de la Covid nous a révélé à quel point nous sommes amoureux de nous-mêmes. Vous savez, une crise révèle ce qui est au fond de nous. J'aime cette image où est-ce qu'on dit que quand on presse un dentifrice, c'est pas de la glace à la vanille qui en sort, c'est du dentifrice. Quand on vit une crise, quand on vit une pression, ce qui ressort de nous à ce moment-là, c'est pas quelque chose de nouveau, non, c'est quelque chose qui était en nous. Et la crise de la Covid a révélé ce qui se cachait au fond de certaines personnes. La crise a révélé que certains sont prêts à se faire du mal juste pour prouver et démontrer que leurs idées sont meilleures que les autres, juste pour prouver que leur théologie est meilleure que celle des autres. La crise de la Covid a révélé que l'amour de soi est présent dans l'Église. Et j'ai relevé quatre dangers à l'amour de soi. Premier danger de l'amour de soi dans l'Église, c'est croire qu'on est meilleur que les autres. Le premier danger de l'amour de soi, c'est de croire qu'on est meilleur que les autres. que je suis meilleur que toi. Vous savez, quand une personne tombe amoureuse, elle ne voit que cette personne. Quand Julie est tombée amoureuse de moi, elle dit « Waouh, il est génial, il est tellement fort, il n'y a personne d'autre qui existe, sauf lui, il est super !» Mais elle avait raison. Quand on est amoureux, vraiment, on ne voit plus qu'une seule personne. On la met sur un piédestal, parfois. Et c'est la même chose quand on tombe amoureux de nous-mêmes. On se met sur un piédestal, on ne voit plus que nous. Notre attention est centrée sur nous. Ma pensée, c'est la meilleure. Ma théologie, c'est la meilleure. Ma vérité, il n'y a que ma vérité qui est vraie. Si tu es pour ma vérité, tu as raison. Si tu es contre ma vérité, tu as tort. Si vous voulez un exemple de ce que j'avance, regardez juste au débat de ce qu'on voit là sur la marque de la bête dernièrement. Et on va en parler là. Je vais en parler parce qu'en plus, on est dans la série de la fin des temps, là, donc il faut en parler. On a vu des divisions prendre place à cause des personnes qui croyaient que le vaccin était la marque de la bête. La puce est la marque de la bête. La 5G, c'est la marque de la bête. Et le problème de ça, c'est que ces échanges sont devenus vraiment violents, intenses, sans respect, sans amour, sans grâce. Je vais faire un rappel de ce que c'est la marque de la bête. Pour ceux qui se demandent un petit peu c'est quoi cette chose-là, ça a l'air un petit peu bizarre. La marque de la bête, on la voit en Apocalypse 3 et au verset 16. Et en fait, dans le contexte, je vais vous résumer ça, le diable ou la bête va exiger, dans l'avenir, enfin dans ce que l'Apocalypse nous dit, va exiger que ceux qui veulent suivre la bête doivent avoir une marque, vont devoir se faire une marque, soit sur la main droite, soit sur le front. Ce sera une preuve de l'allégeance envers le diable ou envers la bête. Et un courant de pensée qui dit que cette marque sera physique, c'est un courant majoritaire de théologie qui dit que cette marque sera physique. Et vu que ce courant de pensée dit ça, certains sont omnibulés, ils veulent savoir ce que sera la marque de la bête. Ils cherchent que ça. Est-ce que c'est un code barre? Est-ce que c'est une puce? Est-ce que c'est un vaccin? Les gens sont passionnés par ça et ils développent des théories. Et le problème, c'est qu'ils en viennent à être amoureux de leurs théories, amoureux de leurs pensées. C'est la raison pour laquelle aussi c'est difficile de prêcher l'Apocalypse. C'est parce que les gens sont attachés émotionnellement à leur théologie de la fin des temps. Et c'est correct si certains pensent que la marque de la bête sera physique. J'ai aucun problème avec ça. J'ai juste un problème, je dénonce juste le fait d'être amoureux de sa théologie, ça c'est pas bon. Là tu tombes, là il y a un problème. Parce que le problème c'est qu'il existe une autre théologie. Il existe un autre courant de pensée qui dit que cette marque, la marque de la bête, sera une marque qui sera spirituelle, qui est imagée. En fait, ce courant de pensée-là pense que ce sera spirituel parce qu'on voit que tout le long de la Bible, tout au long de l'Apocalypse, le diable essaye de copier Dieu. Il y a un Dieu trinitaire, on va avoir une sorte de trinité diabolique. Et c'est la même chose pour la marque de la bête. On voit que la marque de la bête apparaît après que Dieu ait marqué en Apocalypse 7 les personnes qui veulent le suivre. Dieu marque en Apocalypse 7 des croyants pour les protéger. Il les marque d'un sceau royal. Et ici, on comprend dans le contexte de l'Apocalypse 7 que c'est une marque qui est spirituelle. Donc, ce courant de pensée dit, bah, regardez, la marque est spirituelle, la marque de Dieu est spirituelle, donc la marque de la bête, c'est spirituelle, c'est imagé. C'est pour montrer que tu suis le diable. Certains là, vont me dire, ouais, mais attends, la marque de la bête, il est marqué que ceux qui ont cette marque pourront acheter et vendre, et ceux qui ne l'ont pas ne pourront plus acheter ni vendre. Mais le courant de pensée qui dit que la marque de la bête sera spirituelle revient aussi sur ce principe que acheter et vendre, c'est comme pour démontrer qu'on suit le diable. C'est comme une image ici. Ce n'est pas vraiment physique. D'autant plus que dans l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 18, Dieu dit « Je te conseille d'acheter chez moi de l'or ». Et on comprend ici que c'est imagé. Parce qu'on ne va pas arriver devant Dieu avec une carte de crédit pour lui acheter de l'or. Donc comme ici c'est imagé, les gens pensent que, des théologiens pensent que acheter et vendre aussi, ce sera imagé. C'est comme si on dit, bah, tu ne pourras plus acheter et vendre, c'est juste une image. C'est une image qui se rapporte un petit peu à ce qui se passait avant. Parce qu'avant, les premiers chrétiens, quand ils ont lu l'Apocalypse, ils l'avaient compris d'une façon aussi qui était différente de la nôtre. Parce que les images qu'on voit dans l'Apocalypse, c'était des images aussi qui étaient contextuelles. À l'époque, dans une des villes, on devait venir au marché, offrir un sacrifice à une idole pour pouvoir rentrer sur le marché avec une marque qui nous dit « on a bien fait le sacrifice » afin de pouvoir acheter et vendre. Et les chrétiens qui arrivaient là, ils disaient « bah non, moi je ne peux pas faire ce sacrifice-là, moi je crois en Dieu. » Donc, pas de marque, tu ne peux pas acheter ni vendre. Donc ça montre juste que ça peut être une image. La marque de la bête peut juste être quelque chose de spirituel. Et si je vous expose ces deux théologies, ce n'est pas pour dire que l'un a raison et l'autre a tort. Moi, j'ai ma position et vous avez le droit d'en avoir une autre qui est différente. Si je vous expose ça, c'est juste pour nous appeler à être humbles, théologiquement, sur l'Apocalypse. À être humbles parce qu'il y a des points qui ne méritent pas une guerre d'orgueil, qui ne méritent pas une guerre d'idées, qui ne méritent pas une guerre de division. Personne ne sait ce que sera réellement la marque de la bête. Personne. Et au lieu de chercher à comprendre l'inconnu, apprenons à mettre en pratique ce qu'on connaît déjà dans la Bible, à être des témoins, à être remplis d'amour et de passion pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Les gens, la société ne sauront pas que nous sommes des disciples de Jésus selon notre théologie de la marque de la bête, mais selon le respect et l'amour qu'on aura mutuellement les uns envers les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un pense différemment de toi qu'il est inférieur à toi ou que tu es supérieur à lui. C'est notre premier danger, se croire meilleur que les autres. Deuxième danger de l'amour de soi, est un peu similaire, mais c'est se croire plus spirituel que les autres. Jésus nous donne une parabole en Luc 18. Et regardez à qui il s'adresse pour cette parabole. Jésus dit au verset 9, « Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Autrement dit, qui se croyaient plus spirituels que les autres. » Jésus fait cette parabole juste à ces personnes-là spécifiquement qui étaient tellement orgueilleux qu'ils se croyaient plus spirituels que quelqu'un d'autre. Et il raconte la parabole d'un pharisien qui va au temple pour prier. Et le pharisien se trouve là devant Dieu et dit « Ah, Seigneur, je suis tellement bon, je suis tellement fort, je donne ma dîme, je jeûne, je viens prier, je suis extraordinaire. » Et de l'autre côté, on a un collecteur d'impôts qui est à genoux, qui n'ose même pas lever le regard vers Dieu, qui se tape la poitrine, qui dit « Seigneur, je ne mérite rien, je ne mérite rien. » Et à la fin de cette parabole, au verset 14, Jésus nous dit « Je vous le dis, lorsque ce dernier, donc le collecteur d'impôts, descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. » Il y a un danger à se croire plus spirituel que les autres. Et pour rester dans l'illustration un petit peu de la marque de la bête, je me souviens d'un jour où il y avait un concert à l'église et puis il fallait payer, etc. Pour aller à ce concert. Et puis une personne rentre dans l'église, elle paye, donc je m'apprête à lui mettre un petit tampon pour dire à la sécurité, c'est bon, vous pouvez laisser rentrer cette personne parce qu'elle a payé. Parce que cette personne, elle retire, ça me fait, hey, non, tu ne me fais pas ça à moi, hein. Moi je suis chrétien. Et là, j'étais un peu, oui, c'est pas grave, enfin, c'est quoi le problème? Et là, je comprends que, non, me mets pas la marque de la bête sur moi. Moi, je suis chrétien. Tu peux le mettre sur les autres, là, mais moi, je suis chrétien. Et j'ai été frappé, justement, par ces sentiments de se sentir plus spirituel que les autres. Et aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, certaines personnes qui se font vacciner se font insulter, critiquer, moquer pour leur manque de foi, parce qu'ils se sont fait injecter la marque de la bête. Ils se font critiquer par d'autres chrétiens qui se croient être plus spirituels que les autres. Il y a un danger à se croire plus spirituel que les autres, car ça revient à mettre notre salut et notre confiance dans nos œuvres. Moi, je mérite mon ciel, Seigneur. Regarde tout ce que je fais et tout ce que les autres font. Moi, t'as vu comment je suis fort par rapport à eux. Moi, je suis plus spirituel que les autres. Moi, je mérite le ciel par rapport aux autres. On ne mérite pas le ciel. On a un accès au salut uniquement par grâce, pas par nos œuvres. Troisième danger de l'amour de soi, le danger de la critique. L'amour de soi n'amène pas une église à se tourner vers Dieu ou à se tourner vers les autres. L'amour de soi amène à la haine, à la division, au commérage, à la divulgation de fausses informations et de mauvaises informations. Et encore une fois, je ne m'éloigne pas trop là pour donner une illustration, parce que regardez juste à ce qui s'est passé dans les derniers mois, tout le commérage, toutes les mauvaises informations qui sont sorties. Et c'est la faute de Bill Gates, c'est la faute de Trump, de Biden, de Trudeau. Les chrétiens ont sorti, ils ont lancé leur première pierre par orgueil. C'est la faute d'un tel. Ils ont mis en pâture, entre guillemets, en avant le défaut de certaines personnes se croyant plus fort qu'eux. Dernièrement, il y a une de mes amies, elle a participé à une conférence qui était incroyable en sociologie. Et en fait, cette conférence exposer les fruits d'une recherche, en fait, et cette recherche mettait en valeur le croisement entre les croyances protestantes évangéliques et les croyances complotistes. Et elle m'a fait un bref rapport, mais j'étais juste attristé de me dire qu'aujourd'hui, les chrétiens évangéliques pensent tellement à savoir plus de choses que la société, sont aujourd'hui reconnus pour le partage de mauvaises informations que pour leur partage de la bonne nouvelle de Jésus. Même si certaines théories du complot peuvent être vraies, on ne sait pas. Je m'en fiche de savoir si c'est vrai ou pas. Jésus ne nous a pas appelés à ça. Jésus ne nous a pas appelés à dénoncer sur la place publique avec haine, comme si on était parfait. Et le danger de tout ça, c'est qu'on n'est plus reconnu comme étant des disciples d'amour, mais comme étant des disciples des théories du complot. Juste par amour pour nous-mêmes, juste parce qu'on se considère meilleur, juste parce qu'on pense avoir un meilleur point que les autres, juste parce qu'on se sent plus fort que les autres, on se permet de critiquer ou de juger. Et alors que j'écrivais ce message, et surtout dans cette partie-là, je l'écrivais, et puis il y a Dieu qui est venu, qui a pris lui aussi ses gants de boxe pour venir me frapper. Parce que Dieu m'a ouvert les yeux sur mon cœur. Et j'ai réalisé que moi aussi, j'étais en train de tomber dans ce piège de la critique orgueilleuse. Que j'étais en train de devenir l'orgueilleux qui critique l'orgueilleux. Que j'étais en train de devenir le critique du critiqueur. Et je l'ai souvent été pendant la pandémie. Moi aussi, je me suis senti supérieur. Supérieur à ceux qui partageaient ces théories du complot. Je les jugeais. Je critiquais ce qu'ils faisaient. Je me sentais meilleur qu'eux. Je les voyais débattre là, violemment sur des théories. J'avais aucun amour pour eux. Je me sentais supérieur à eux et j'oubliais que derrière chaque parole que je voyais, que je lisais, j'oubliais qu'il y avait une personne qui était en train d'élever son amour pour lui-même. Je voyais juste une personne qui se vantait, qui se glorifiait, mais j'oubliais juste que c'était une personne qui avait oublié sa place, qui avait oublié l'humilité. Et ça m'a fait perdre l'amour pour les autres. Donc, ce message, si vous avez l'impression que je suis comme ça depuis tout à l'heure, je suis d'abord comme ça. Je me pointe moi. Depuis le début de mon message, là, c'est vers moi que je me pointe. Je suis le premier concerné par ça. Et je refuse d'être ce genre de personne. Je ne veux pas. Ce n'est pas à quoi je suis appelé non plus. On a vu le danger de se croire meilleur que les autres parce qu'on se croit plus spirituel. On vient de voir le danger de la critique. Et maintenant, le quatrième danger, croire que ce message ne s'applique pas à ta vie. L'amour de soi vient nous faire croire que ce qu'on entend le dimanche matin, ça ne s'adresse pas à nous. Ça ne s'adresse pas à moi. Le danger, c'est de croire que ce que la Bible nous demande, ça ne s'adresse pas à moi. Je n'ai pas besoin de servir, moi. Les autres, oui. Les autres, oh là 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 là. Les autres, oui, ils ont besoin de servir. Moi, non. Les autres, ils ont besoin de donner leur dîme, là. Oui, 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 oui. Moi, non. Les autres ont besoin de prier. Ils ont besoin de lire leur Bible. Ah, c'est clair, ils ne sont vraiment pas assez spirituels, donc il vaut mieux qu'ils le fassent, là. Mais moi, non. J'en ai pas besoin. Les autres ont besoin de mettre leur clignotant quand ils tournent sur la route. Mais moi, non, j'en ai pas besoin. Sauf qu'en ne mettant pas ton clignotant, tu mets pas seulement en danger ta vie, mais la vie de ceux qui sont autour de toi. Et c'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, en fait, c'est comme l'étoile noire. Et tu peux mettre la diapo 13. Pour ceux qui n'ont jamais vu Star Wars, je prierai pour vous après. Je plaisante. Pour ceux qui n'ont jamais vu Star Wars, l'étoile noire, ce n'est pas une image qui se trouve dans l'Apocalypse. Hein. Ce n'est pas quelque chose, un truc qu'on ne comprend pas dans l'Apocalypse. Non, c'est de la science-fiction. L'étoile noire, c'est un vaisseau. Un vaisseau qui a comme arme de pouvoir détruire des planètes. Quand l'étoile noire touche une personne, elle ne touche pas uniquement une seule personne, elle touche tout le monde qui est autour. Et l'orgueil, c'est la même chose. Quand tu es frappé par l'orgueil, il n'y a pas que toi qui es touché par ça. Il y a tout ton monde qui est autour de toi, qui est frappé par ton orgueil. L'amour pour toi va impacter ceux qui sont autour de toi. Ça va impacter ta relation dans ton mariage, avec tes enfants, avec tes collègues. Si tu crois que surtout que ce message ne s'adresse pas à toi, ça va affecter toutes ces personnes-là. Et Paul met en garde Timothée contre l'amour de soi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les théologiens supposent que Timothée se trouvait à Éphèse quand Paul lui a écrit cette lettre. Et les théologiens supposent en fait que Paul voyait certains comportements de ce style-là apparaître dans l'église d'Éphèse. Donc il dit à Timothée, attention à ce genre de comportement, attention à l'amour de soi qui est en train de se développer dans l'église. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'Apocalypse, on retrouve l'église d'Éphèse quelques années plus tard encore. On le retrouve et on voit dans l'Apocalypse 2 que Dieu met en valeur leurs œuvres. Waouh, hey, tu sers bien, tu fais des belles choses, tu fais des bonnes œuvres, mais j'ai un reproche à te faire. Il le dit au verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Peut-être que l'église d'Éphèse est amoureux de leurs œuvres, amoureux de leur théologie. Ils étaient fiers de leurs actions. Mais ils ont mis de côté leur amour pour Dieu. Et Dieu les appelle à la repentance. Change, change, ne reste pas comme ça, change. Car sinon, Dieu leur dit, sinon je vais ôter ton chandelier de la place. Autrement dit, sinon tu ne vas plus rayonner, je vais me retirer. Tu ne rayonneras plus pour moi. Ton ministère ne fonctionnera plus. Je me retirerai de toi. Et Éphèse n'a pas écouté. L'église d'Éphèse n'a pas écouté parce qu'on voit que cette église a totalement disparu des années plus tard. L'orgueil de nos cœurs creuse un fossé entre Dieu et nous. Même écrit en Jacques, au chapitre 4, verset 6, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Est-ce que, je me suis juste posé cette question, je vous la pose et je n'ai pas forcément cette réponse, mais est-ce que c'est possible que ça soit la raison pour laquelle Paul a dit que la fin des temps sera difficile ? Parce que les chrétiens seront tellement orgueilleux que Dieu n'agira plus au milieu d'eux ?